Bonjour tout le monde, bon vendredi matin, bon premier jour de ce mois de mai, un mois de mai qui célèbre également aujourd'hui la fête des travailleurs. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais effectivement, normalement, il y aurait eu sans doute des manifestations, comme à l'habitude, pour revendiquer des augmentations de la qualité de vie, en passant par des augmentations de salaire. En cette journée du 1er mai, pour cause de pandémie, c'est plutôt tranquille dans les rues un peu partout sur la planète, mais toujours est-il qu'en cette journée internationale des travailleurs, on trouvait que c'était important de revenir sur ce que ça amène, c'est-à-dire une augmentation chez nous du salaire horaire. Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, le taux horaire du salaire minimum au Québec passe de 12,50 $ à 13,10 $, donc 13,10 $ de l'heure. Pour ceux qui reçoivent un pourboire, ben c'est 10,45 $ de l'heure. Donc c'est une hausse d'ailleurs qui avait été annoncée en décembre dernier. Et là, il y a de plus en plus de gens qui estiment qu'on aurait dû reporter cette hausse du salaire minimum parce qu'on est en pleine crise, parce que le monde a été mis à pied, parce qu'on le sait, on n'arrête pas de se le faire dire tous les jours. C'est pas évident pour les entrepreneurs, pour les petites et moyennes entreprises, les secteurs du commerce du détail, secteur de la restauration, où justement, il y a beaucoup de travailleurs à pourboire ou de travailleurs au salaire minimum ou dans ces eaux-là, c'est-à-dire des salaires à bas revenus. Ben, c'est sûr que ça fait une pression supplémentaire. On va en discuter, puis je vais vous poser la question. Est-ce que, considérant le fait que beaucoup d'entreprises sont en difficulté, est-ce qu'on aurait dû, d'après vous, reporter cette hausse du salaire minimum ou, au contraire, étant donné que c'est ressorti, hein, tous ces travailleurs à faible revenu, ceux qu'on appelle nos anges gardiens qui sont dans le travail, dans les soins essentiels en santé, préposés aux bénéficiaires, on en a parlé de leur piètre conditions de travail, puis même s'il y a eu une légère augmentation, sincèrement, tout le monde reconnaît aujourd'hui là, que c'est une maudite job là, que de faire ça. C'est pas évident, ça prend énormément de courage, de force mentale aussi, parce que le quotidien, là, il est très dur à vivre. Donc, est-ce que 13,10 $, c'est trop demandé en ce moment? On va en discuter avec Nicolas Duvernois, qui est président fondateur de Pure Vodka. Vous le connaissez, c'est un entrepreneur dragon. Bonjour, Nicolas.
Allô, allô. Bon matin.
Julien Desgnaux est porte-parole de la campagne 15+ et d'Alternative Socialiste. Julien milite donc pour cette campagne 15+, qui dit que, vous allez me dire, Julien, j'imagine, bonjour, que 13,10 $, ce n'est que le début, qu'idéalement, ça devrait être 15 $ le salaire minimum au Québec.
Et voilà, bien le bonjour, bien le bonjour.
Bon, je vous pose la question à tous les deux. Je vais commencer par Nicolas. Il y a bien des gens de l'industrie, de la PME, des gens d'affaires qui disent ça n'a pas de bon sens, de cette hausse du salaire minimum, alors qu'on a une pression indue, qu'on ne sait même pas si on va être capable de passer à travers. Est-ce qu'on aurait dû reporter cette hausse, Nicolas Duvernois?
Oui, ben c'est sûr que bon, si on parle de timing, hein, timing is everything, comme on dit en affaires, ben là c'est sûr que les entrepreneurs de PME, hein, parce qu'on pense toujours qu'au Québec, les entrepreneurs, c'est toujours les 20 multinationales auxquelles on fait toujours référence, mais tu sais, c'est des centaines, à la place, le vrai entrepreneuriat, c'est des centaines de milliers d'entrepreneurs qui ont 4, 5, 10 employés. Et ben là, ils se demandent s'ils vont survivre. On pense et on dit et on croit qu'une entreprise sur trois ne va tout simplement pas survivre cette crise. Et aujourd'hui, cette augmentation arrive. Écoutez, moi, je l'ai toujours dit, c'est pas que je suis contre cette augmentation-là. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est toujours l'entrepreneur de PME qui a tout le fardeau sur lui, finalement.
Qu'est-ce que ça voudrait dire en ce moment, là, Nicolas, le fait, là, vous venez de nous rappeler, là, une entreprise sur trois va peut-être pas passer à travers. Est-ce que c'est vraiment une pression réelle, là, cette augmentation de 60 sous du salaire horaire en contexte de pandémie, là?
Ben là, aujourd'hui, ils ont 0 $ de revenus. Donc, 60 sous, c'est 60 sous, ça peut être énorme, entre guillemets, quand t'as absolument 0 $ de revenus. La majorité des entrepreneurs n'avaient pas plus que 2 ou 3 semaines de moyens financiers, entre guillemets, pour pouvoir survivre. Donc, on voit à quel point les aides qui ont été mises en place, autant par le gouvernement provincial, fédéral, et quand t'es dans les villes, certaines villes, ont été... se sont dilapidés entre guillemets en quelques journées, c'est parce que le monde en avait besoin. Donc c'est dommage là de parler d'augmentation salariale ou d'augmenter le salaire minimum aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ben c'est pas une journée normale, c'est pas un 1er mai comme il y en a tant eu, c'est un 1er mai en temps pandémie, en temps peut-être même de récession. Donc, je trouve que c'est juste un sujet ultra sensible à aborder, mais il faut l'aborder parce que, écoutez, ça va être une catastrophe économique.
Exactement. Ouais, il faut l'aborder. Julien, je vais vous donner la parole. Je veux juste en profiter pour redonner nos numéros de téléphone aux gens qui nous écoutent un peu partout au Québec, dans toutes les régions du réseau Cogeco. Vous pouvez nous joindre sans frais en faisant le 1-866-790-9850. Dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. Dites-moi si, d'après vous, c'était le bon moment là, de hausser le salaire minimum à 13,10 $. Évidemment, le contexte est particulier. Julien Desgneaux, vous militez, vous, depuis longtemps là, pour les intérêts des travailleurs, des travailleuses. Vous dites 13,10 $, franchement, déjà, il y a d'autres provinces qui ont augmenté déjà à 15 $. Est-ce que le fait d'avoir reporté, si on l'avait reporté, est-ce que ça aurait été si grave, vous pensez, pour vous, à court terme? Parce que quand Nicolas dit en ce moment, il y a des gens qui font zéro. Là. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus urgent là, pour les gens qui sont des entrepreneurs ou qui ont des entreprises.
Bon, quand on parle de restarter l'économie là, puis de redemander aux gens de venir dépenser dans les PME, encore faut-il que les gens aient quelque chose à dépenser. Là, en ce moment, il y a 6 millions de personnes qui ont fait des demandes d'aide directe au Canada. La dette des ménages ici au Québec est à 150. Il y a à peu près environ le quart des loyers d'avril qui n'ont même pas été payés au complet. Puis là, on vient dire que le fardeau repose sur les épaules des PME. Fardeau, il repose sur les épaules des travailleurs et des travailleuses, puis en particulier ceux qui gagnent des bas salaires.
Là, c'est on va juste laisser
Julien terminer du collab, puis ensuite on débattra, oui.
Là, ce qu'on a pu voir là, durant les dernières années, là, c'est les plus fortes hausses du salaire minimum au Québec depuis 25 ans. Pourquoi? Parce que les gens y ont été en lutte. Parce que les gens, notamment dans les résidences pour personnes âgées, ça fait des années qu'ils réclament 15 $ de l'heure. Partout au Canada, partout aux États-Unis, il y a eu ce mouvement-là qui a été victorieux dans bien des endroits. Ici, bon, ça s'est fait pas à pas. On n'est pas encore rendu là. Sauf que 13,10 $ à temps plein, sans vacances, ça, c'est en dessous d'un salaire minimum viable. Donc, on peut s'en sortir, tu sais, mais on vit pas de manière digne. On peut pas faire d'économie. On peut pas se sortir de la pauvreté. Donc là, si on veut restarter l'économie d'une manière ou d'une autre, faut permettre aux gens de le faire.
Est-ce que vous diriez, Julien Desgneaux, que ce qu'on a vu là, dans le CHSLD, la difficulté de travailler, de trouver des préposés aux bénéficiaires, la difficulté d'attirer des gens pour aller faire le travail, ce travail quand même assez difficile, et pour le corps et pour le mental, le moral, est-ce que vous trouvez que c'est justement l'exemple que il y a vraiment des corps de métier qui ont été oubliés au fil des ans?
Oui, exactement. Ça fait des ceux qui étaient au front line de la bataille pour le 15 $, c'était les gens du SQUES STQ, c'était des gens, surtout des femmes, dans des résidences pour personnes âgées. L'année passée, à pareille date, ces gens-là, partout au Québec, préparaient une grève générale pour augmenter leur salaire à 15 $. L'année passée, là, il y a un CHSLD en particulier, CHSLD Héron. Dont les employés...
À Dorval, oui.
Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé au CHSLD Héron cette année? 31 morts. Il y a maintenant une enquête policière sur les conditions là-bas.
Même oui, mais il s'est passé un virus aussi. Il s'est passé la COVID-19.
Oui, oui. Là. Mais ce qui s'est passé, c'est que les mesures qu'on aurait dû prendre, engager le personnel suffisant, avoir un salaire décent pour que le monde soit intéressé de travailler là, ça s'est pas fait. Le premier ministre Legault lui-même l'a reconnu. Ah ouais, les salaires, c'est peut-être un facteur qui explique pourquoi on n'a pas assez de monde, puis pourquoi on a une pénurie dans ces endroits-là. Voilà, tu sais, il fallait prévenir. Là, maintenant, on ramasse les pots cassés de ça, puis des gens, des PAB, il y a 3 PAB qui sont mortes actuellement de la COVID-19, là. Mourir au travail là, à 13 $ de l'heure, ça vous tente dessus?
Ouais. Nicolas, tu voulais dire quelque chose?
Oui, ben là, je crois qu'on mélange tellement d'affaires. Il faut faire super attention, premièrement. Tu sais, moi, j'ai lavé les planchers 12 ans dans un hôpital, donc je connais extrêmement bien là, la réalité de tout ce qui est réservé aux bénéficiaires et toutes les personnes qui travaillent dans le système de la santé. Puis moi, je mettrais les personnes qui travaillent dans le système de la santé, tout comme les profs ou même les éducatrices en CPE, un peu de côté, juste pour la discussion. Là qu'on parle de salaire minimum, l'immensité des personnes qui vont recevoir cette augmentation-là sont dans le secteur privé-privé. On parlait aussi que le travailleur aujourd'hui...
Restauration, commerce de détail. Là.
Oui, ouais. C'est ça, les entreprises fondées par monsieur et madame tout le monde en Guinée. Là, j'entends, oui, certes, les personnes n'ont pas d'argent pour aller dépenser, ça, je suis entièrement d'accord, mais c'est même... Il y a même un frein avant même de ne pas avoir d'argent à aller dépenser, c'est que les magasins ne sont pas ouverts. Donc, c'est clair et net qu'on ne peut pas aller dépenser. Du côté du secteur privé, le service santé surtout, c'est sûr que les proposés aux bénéficiaires et les infirmières, les personnes qui font l'entretien ménager, moi, je suis content aujourd'hui, il y a peut-être un mois, il y avait un article sur l'importance finalement qu'on reconnaisse les personnes de l'entretien ménager qui sont la première ligne de défense pour tout type de maladie et incluant celle-ci. Cependant, là, moi, où je mets plus l'emphase, c'est sur le fait que quelqu'un qui perd son emploi, c'est catastrophique. Cependant, il peut retrouver un autre emploi. Un entrepreneur qui perd 20 ans de ses... de son travail, de sa passion, de sa mise de fonds, de ses garanties financières, sa maison et tout ça, certes aussi, il peut se relever, mais on s'entend que le trou est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus creux. Mm. Donc, tu sais, il faut quand même aussi regarder ça à un plus haut niveau avant d'aller tout de suite dans les revendications et les défenses, parce que c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas un chat qui est contre l'augmentation d'un salaire. Le problème, c'est attention de ne pas mettre le fardeau toujours sur la même personne.
Oui. Ben, c'est surtout qu'on se poserait pas la question, je vous avoue, ce matin, dans un contexte normal. Je trouvais ça intéressant de se la poser parce que moi, j'ai entendu des voix qui disaient justement, hey, ça a pas de bon sens en ce contexte de pandémie, alors que le deux tiers, plus, on le sait, plus du deux tiers des travailleurs dans le monde vivent dans un pays où on a obliger la fermeture des lieux de travail. Il y a eu un recul moyen du nombre d'heures travaillées dans le monde de plus de 10 %. Donc, c'est 305 millions d'emplois à temps plein dans le monde qui ont pris le bord. C'est immense. Chez nous, je veux juste vous dire, il y a 360 000 Québécois qui travaillent sous le seuil de la pauvreté. C'est presque bizarre à dire. Travailler, puis être pauvre en même temps. Mais oui, c'est les nouveaux pauvres aujourd'hui, des travailleurs à faible revenu. Donc, je pose la question, puis je veux vraiment vous entendre là-dessus. On va, bien sûr, conserver nos invités. Nicolas Duvernois, président fondateur de Pure Vodka, Julien Desgnaux, porte-parole de la campagne 15 plus pour un salaire à 15 $ de l'heure. Aujourd'hui, il passe à 13,10 $ pour donc une augmentation de 60 sous du taux horaire. Est-ce que en temps de crise, vous auriez compris qu'on repousse cette hausse de quelques mois ou à l'année prochaine? Il y en a qui disent qu'en temps de crise, c'est ça qu'on doit faire. À l'époque, en 1980, le gouvernement de René Lévesque avait gelé le salaire minimum pendant quelques années parce qu'on disait qu'en temps de crise, tu peux pas augmenter les conditions de travail des gens. Ça fait effectivement trop de mal à ceux qui les emploient. Nos numéros 514-790-9850, 1-866-790-9850, un peu partout au Québec. Et je vous rappelle que tout à l'heure, restez au cours de cette émission, restez là bien sûr parce qu'à 11h, on sera en diffusion exceptionnelle d'une conférence de presse du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Il y aura également le directeur général adjoint de la protection de la santé publique, Yves Jalbert. Les deux vont nous présenter un plan important. On va en savoir plus sur le dépistage de la COVID-19 au Québec. Donc, on va faire une émission, une deuxième heure vraiment spéciale sur les tests de dépistage. On a très hâte de vous donner les plus récentes informations là-dessus. En attendant, on poursuit sur le taux horaire. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'était une bonne idée? À tout de suite, tout le monde. Alors, pour cause de pandémie, c'est une fête des travailleurs qui est vraiment triste. Et pour beaucoup de gens, il n'y a rien à célébrer aujourd'hui. Il y a une augmentation quand même du taux horaire, du salaire minimum qui passe à 13,10 $ à partir d'aujourd'hui. Donc, 60 sous de plus pour les gens qui travaillent normalement au plus bas taux. Évidemment, beaucoup d'entre eux sont mis à pied aujourd'hui, fait que ça leur fait une belle jambe. Mais en attendant, quand on va recommencer le travail, il y aura cette augmentation. Évidemment, tous les groupes syndicalistes et militants dans le milieu communautaire disent que 13,10 $, c'est un 60 sous de plus dans la bonne direction, mais c'est nettement pas assez. On mise 15 $. Il y a déjà des provinces au Canada qui ont fait ce geste-là d'augmenter leur salaire minimum. On pense à l'Ontario, l'Alberta également. On a Jean-Pierre qui est un employeur. Comment vous voyez ça, Jean-Pierre? Vous, bonjour, merci de nous appeler.
Ben moi, je vois ça serait la moindre des choses que le monde puisse vivre décemment. C'est parce que déjà, à 15 $, il n'y a pas d'avantages sociaux, c'est pas énorme. Mais c'est sûr que je comprends que pour plusieurs entreprises, c'est pas facile. Mais il faudrait peut-être consommer moins puis consommer mieux. Peut-être que ça va coûter un peu plus cher.
Voilà. Merci, Jean-Pierre. Mais pour vous, donc, comme employeur, vous estimez que cette pression-là, ce 60 sous de l'heure de plus, vous êtes capable de la supporter?
Ben, ça me touche pas. Je suis en haut de ça, honnêtement.
Tous les gens que vous engagez, vous les payez pas au salaire minimum, c'est ça?
Non, non.
Voilà. OK. Mais merci, Jean-Pierre. Merci bien. Jean-Marc, bonjour.
Oui, bonjour.
Ouh, bonjour, Jean-Marc. Votre opinion là-dessus, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, on aurait peut-être dû reporter cette hausse du salaire minimum?
Non, moi, je donnerais pareil. C'est parce que, qu'est-ce qui arrive? Moi, ben, c'est sûr que moi, j'ai un bloc appartement. C'est déjà, à 12,5, ils ont de la misère à payer. Puis, si aujourd'hui, les personnes-là, ils auraient déjà plus cher de l'heure, peut-être que le gouvernement, il n'aurait pas été obligé de donner de l'argent parce qu'ils sont pas capables de payer leur loyer.
Mm. Donc, vous trouvez que c'est tout à fait normal qu'on augmente le salaire minimum?
Ah oui, moi je le donnerais là. C'est sûr que moi ça me dérange pas parce qu'on est plus cher que ça, mais c'est pas les ceux qui ont de la misère à arriver vont toujours avoir de la misère à arriver et ils arriveront jamais.
Oui, effectivement. Merci, merci beaucoup. Évidemment, on est en compagnie de Nicolas Duvernois et Julien Desgneaux. Julien est porte-parole de la campagne 15+, donc pour le 15 $ de l'heure. Nicolas Duvernois est président fondateur de Pure Vodka, une entreprise sur trois, nous disait Nicolas, ne risque de pas revenir à cause de cette pandémie. C'est vrai que, bon, là, on vient de parler à un employeur, puis ce que je comprends, c'est que Jean-Marc l'était aussi. Donc, deux employeurs, Nicolas Duvernois, qui disent, moi, de toute façon, mes employés, je les paye plus cher. Et c'est ce qu'avait dit François Legault, hein, qu'au Québec, on misait des emplois qui étaient au-delà du 20 $. On misait, là, ouais, donc, mais il y a quand même plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui gagnent ça, là, qui font le salaire minimum.
Ah, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est pour ça aussi que je crois que, certes, il faut continuer à essayer d'aider le plus possible le monde d'avoir un meilleur salaire. Mais ça, le meilleur salaire, ça passe aussi par peut-être une plus longue ou une meilleure formation ou une formation différente. Moi, quand je vois justement les proposés pour revenir aux préposés, nos fameux préposés aux bénéficiaires, ben moi, je trouve ça inadmissible, les salaires qu'ils ont. Mmh. Mais moi, ce que je ferais, c'est qu'on ne reconnaît, ce qui est encore plus inadmissible, c'est qu'on ne reconnaît pas l'importance et la hauteur de leur de ce qu'ils peuvent amener au système de la santé. Donc, pourquoi on ne ferait pas là un cours un peu plus long, parce que je sais qu'il y a un cours, mais un DEC ou quoi que ce soit, pour vraiment leur donner aussi, pour décharger un peu peut-être le réseau et leur donner justement accès à ce fameux salaire qui est plus haut. Parce que là, on les prend un peu comme bouche-trou à droite et à gauche. On leur donne un salaire pas du tout acceptable à mes propres yeux. Là.
De misère, ouais.
Ils font de misère pour ce qu'ils font. Hey, c'est la première ligne, là, tu sais, c'est... Mais... Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années qu'on dit que les préposés aux bénéficiaires ne sont pas bien payés? Ça fait combien d'années qu'on dit que le système de santé, c'est tout croche? Ben là, est-ce que ça surprend vraiment quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe là?
Oui, mais tu sais, la restauration, par exemple, puis Julien, renchérissez si vous voulez là-dessus, parce que je pense restauration, je pense commerce de détail, deux secteurs là, qui vont avoir de la misère à passer à travers cette pandémie. Mmh. Comment vous voyez ça, vous, Julien? Parce que c'est vrai quand même que ça fait 60 sous de l'heure quand on a de la misère. Là, on va être obligé d'avoir des clients à 2 mètres. Les gens savent même pas, ceux qui sont des patrons dans ces secteurs-là se demandent comment ils vont être capables de fonctionner. Est-ce que c'est possible de fonctionner à nouveau? Puis là, on leur dit, ben, il va falloir en plus que vous payiez 60 sous de plus de l'heure vos travailleurs. Ça peut être une inquiétude pour certains.
Oui, ben là, on parlait des PAB puis du staff dans le milieu de la santé ou les résidences privées, justement, qui sont pour la plupart au salaire minimum. Puis ça, ben, c'est le gouvernement qui fixe le salaire minimum. Les propriétaires multimilliardaires qui sont à la tête de ça, ben, eux continuent, en fait, de maintenir ça bas pour dégager le plus de profits possible. Mais tu sais, quand tout s'écroule comme ça à cause d'une crise, que ce soit une crise sanitaire ou une guerre mondiale ou peu importe, quand le libre marché est incapable de gérer ce qui se passe, c'est l'État qui intervient. Quand il y a eu la grosse récession économique mondiale dans les années 30, parce que c'est actuellement une nouvelle récession mondiale de cette ampleur-là dans laquelle on rentre, ben ce que le gouvernement aux États-Unis a fait, c'est le New Deal, c'est-à-dire d'investir massivement dans des emplois, dans des infrastructures, légaliser la syndicalisation, encourager la syndicalisation, principalement pour que ça augmente les salaires, pour que les gens soient en mesure de consommer davantage et que la crise économique ne s'amplifie pas. C'est ça qui s'est passé dans les années 30. Puis là, actuellement, la manière dont le gouvernement fédéral tente de sortir la tête de l'eau, ben c'est ça. C'est en investissant des milliards de dollars dans les compagnies, puis en aide directe, justement, aux personnes. Sauf que ça va pas être suffisant, parce que ça va reporter le problème. Mais là, actuellement, pour passer à travers la crise dans laquelle on est en ce moment, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir les moyens de passer à travers. C'est-à-dire que, tu sais, si on laisse les résidences pour personnes âgées entre les mains de multimilliardaires qui pensent qu'au profit, ben c'est sûr qu'on s'en sortira pas, puis que le manque de protection, de la pénurie de personnel va continuer. Tant que ça ne sera pas nationalisé puis réamené dans le secteur public, on va tourner en rond. C'est la même chose au niveau du matériel de protection, que ce soit les masques, les gants, peu importe. Tant que l'État n'a pas ses usines, tant que on produit pas nous-mêmes nos médicaments et notre matériel, puis qu'on est dépendant de compagnies américaines ou chinoises qui, de toute façon, vont garder leur matériel avant de nous l'envoyer, on est condamné à cette crise-là.
Ouais. On a Claude qui nous appelle. Oui, oui, Nicolas, puis Claude, un auditeur ensuite. Nicolas Duvernois.
Il faut quand même, tu sais, les mots, la langue française est tellement riche en vocabulaire, puis tu sais, chaque mot qu'on utilise, on doit l'utiliser à bon escient. T'sais. Premièrement, quand j'entends des multimilliardaires, il y a 3 multimilliardaires au Québec, puis il n'y en a aucun qui a un chez CHSLD.
Là. Fait, c'est qui déjà? C'est qui les noms
c'est,
déjà?
C'est qui? C'est Saputo, c'est Pastu, c'est des Marais. Tu sais, c'est... Écoutez, mais par ailleurs, certes, ça c'est une autre problématique, que les CHSLD soient en guillemets, sous-loué par l'État à des entreprises privées. Ça, il y a une réflexion à faire. Mais l'immense danger dans ce discours-là, là, c'est que on oublie que l'argent de l'État, c'est l'argent du privé. L'État ne fait pas d'argent. Hein, l'État vient chercher l'argent du privé pour le redistribuer à bon escient selon comment il pense de faire. Fait que, tu sais, les 1400, 1000, je sais plus, là, l'argent tout bas de côté, là, à Ottawa, ça, il va falloir le rendre. Puis ça, ça va pas être nous, hein. Ça va pas être nous. Nous, on va être ailleurs, mais ça va être nos enfants. Ça va être nos petits-enfants qui vont rembourser cette dette colossale. Parce que tout argent que le gouvernement nous donne, c'est pas de l'argent du gouvernement. C'est le gouvernement qui fait un prêt sur notre dos pour nous aider. Attention, là, tu sais, quand on dit que c'est le public qui doit le faire, le public, l'argent, c'est notre argent, là.
Oui, complètement, complètement. Mais quand tu dis on le prend du privé, je veux dire, c'est les gens, c'est les contribuables.
Les impôts, les taxes,
c'est les contribuables, c'est les contribuables, c'est ça. Mais je pense qu'on le voit, puis d'ailleurs, quand on voit les sondages de satisfaction par rapport aux programmes fédéraux annoncés par Justin Trudeau, les gens sont plutôt d'accord, majoritairement, de voir que il y a une répartition plutôt équitable. Vous allez me dire, ben oui, nomme-moi quelqu'un qui n'a pas eu accès à un programme, mais il y en a même qui vont en profiter pour probablement faire plus d'argent qu'ils faisaient avant la crise. Là. Ça, c'est clair. Il y a toujours des espèces de... Il y a toujours un pourcentage de la population qui tire parti d'une situation, mais il n'en reste pas moins que ça peut pas non plus se faire sur les travailleurs à bas revenus, j'ai l'impression, Nicolas. Tu sais, le fait qu'il y ait cette crise...
Là-dessus, je suis d'accord avec Nicolas.
Oui, Julien, oui, vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Oui, sur quoi vous êtes d'accord avec Nicolas?
Je suis d'accord sur le fait que les gens, monsieur, madame, tout le monde, les travailleurs et travailleuses, sont trop taxés, évidemment. Ça, je suis tout à fait d'accord
avec
ça.
On est tous d'accord là-dessus, mais en même temps, là, on voit qu'en temps de crise, ça sert à quelque chose.
Ben, pourquoi? Ben, parce que, par exemple, les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Microsoft, eux, le sont pas, ou le sont d'une manière tellement infime que tous ces milliards-là s'en vont.
Ah, vous avez tellement raison. Ça n'a juste pas de bon sens, ça. Ouais.
Ben, c'est ça. Fait que, si on va aller chercher de l'argent, il faut aller le chercher là où il est. C'est-à-dire dans les poches des plus grosses capitalisations boursières de l'histoire de l'humanité, les GAFAM, les banques, qui continuent de s'en mettre plein les poches, même pendant les crises. Mais l'argent, il est là. Puis ça aussi, c'est notre argent. Fait que
c'est clair.
Il s'agit que...
Puis, ouais.
Ouais, on a beaucoup de gens qui veulent intervenir. On va s'arrêter ici. Si vous voulez bien, permettez-moi juste d'aller à la pause. On vient dans 2 minutes. Vous allez voir, c'est vraiment pas long. Puis on va revenir aussi avec Claude, avec Louis-Marc qui veulent intervenir. Faites comme notre public. Vous pouvez nous appeler au 514-790-9850 dans la grande région de Montréal et à l'extérieur, un peu partout au Québec, sur le réseau Cogeco. Vous faites le 1-866-790-9850. Je vous demande si, en temps de pandémie, en cette journée triste de la fête des travailleurs, qui est bien sûr aussi l'occasion d'augmenter le salaire minimum, souvent. Là, c'est le cas, on le fait aujourd'hui. Le ministre du Travail, Jean Boulet, avait confirmé cette hausse de 60 sous de l'heure qui est donc qui rentre en vigueur aujourd'hui. Le salaire minimum, je vous le redis, est donc officiellement de 13,10 $. Est-ce que c'était le moment de le faire? Est-ce que c'était le moment de l'augmenter, ce salaire minimum? Est-ce qu'on aurait dû reporter ça peut-être dans 6 mois ou à l'année prochaine? Vous me dites tout de suite après ceci. Alors, pendant que les PME, tombent au combat, tombent sous le coup de cette pandémie de COVID-19, c'est une triste fête des travailleurs aujourd'hui. Mais tout de même, le salaire minimum passe de 12,50 à 13,10 $. Puis là, je vous pose la question que je vous poserais pas en temps normal, mais là, en temps de crise, après que certaines personnes aient suggéré qu'on aurait dû reporter cette hausse, est-ce que c'est effectivement l'opinion que vous avez? Mes invités, Julien Desgnaux, porte-parole de la campagne 15+, Nicolas Duvernay, entrepreneur. Bonjour Claude.
Bonjour.
Vous êtes un employeur?
Oui, un employeur, 4 employés, une petite PME. Moi, je trouve que c'est pas assez. Et je vais vous expliquer rapidement. Là. Moi, j'ai une petite PME. J'ai payé 13,50 $ mes employés au lieu de 2,85 $ parce que je trouvais que c'était pas assez. Et là, 2 ans, je me suis mis. J'ai des jeunes, je n'ai pas gros, j'ai 4 employés.
Ouais.
Mais par contre, ça change souvent d'emploi, fait qu'il faut que je l'engage. Puis, c'est toujours la même chose. OK? On est en pandémie, on est supposé de réfléchir. Moi, ça fait 1 mois et demi que je réfléchis. Là. Je travaille pas, ça roule pas.
Mm-hmm.
Là, regardez, là, comment vous voulez que quelqu'un, un jeune homme de 21 à 27 ans, parce qu'il y en a qui sortent de l'université, puis ils pognent un petit job, un petit travail, et puis il y a 14 ou 13 et 10 $. Bon. Les loyers, là, messieurs les propriétaires, l'Association des propriétaires au Québec, là, quand vous chargez 850 $ pour un 3,5 parce que vous voulez mener plus riche, pensez donc aux jeunes qui, eux, là, dans le moment, là, ils ont toutes les misères du monde. Moi, je suis rendu plus vieux, je n'ai 60.
Ouais.
Ma compagnie, je vais la donner à celui qui travaille pour moi, ça fait 2 ans. Je vais lui donner, parce que je suis pas riche, là, puis je me prends pas un gros salaire, mais je l'ai augmenté de 3 $ en 1 an, parce que je me suis mis à regarder son travail, puis j'ai dit,
et vous vous êtes dit, ça mérite ça. Ouais. Merci, Claude.
Non, je me suis dit, faut qu'on paie les gens selon ce qu'ils veulent et non pas selon ce qu'ils vont faire. Rien, ça c'est. Oh, c'est un beau petit parleur, ça, là.
Selon ce qu'ils veulent ou selon ce qu'ils valent aussi. C'est ça, c'est un peu ça le point de vue aussi, parce que tu peux toujours demander combien tu veux, mais il y a des gens qui vont dire, OK, combien ça vaut ce travail-là? Puis c'est un peu ça qui fait qu'on a des salaires tel qu'on l'a évalué. Notre société a peut-être aussi décidé que... C'est comme si on décidait qu'il y avait des emplois qui étaient moins importants que d'autres. Et c'est peut-être ça qu'il faut revoir. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2020, on est rendu pour faire une nouvelle analyse de la valeur du travail de certaines personnes. Je pense qu'une grande leçon de cette crise, là, je sais pas ce que vous en pensez, mes invités, mais moi, j'ai l'impression qu'on se rend compte, finalement, qu'on donne peut-être trop à certaines personnes puis pas assez à d'autres. Nicolas Duvernois et Julien Desgnaux, Nicolas?
Mais c'est sûr que le salaire est souvent, pas tout le temps, égal à la formation, la scolarité, au niveau d'études. Hein, pas tout le temps.
Mais souvent, tu as raison, oui.
Ouais, et souvent ça. Et donc, l'immense majorité des personnes qui ont le vrai salaire minimum n'ont pas été chercher une formation pour une raison ou une autre. Là. C'est pas, je ne dis pas que c'est de leur faute, mais il y a cette réalité-là aussi. Et donc, pour les personnes comme une préposée qui a été chercher une formation, mais qui gagne pas très loin du salaire minimum, ben là, elle, si on monte la personne au salaire minimum au même niveau que la préposée déjà, qui gagne pas très loin du salaire minimum, à un moment donné, il faut qu'il y ait comme un équilibre entre formation, niveau d'études, et salaire, sinon après ça veut plus rien dire.
Oui, c'est vrai, il y a ça, mais il y a aussi est-ce qu'on évalue que s'occuper des soins quotidiens des personnes âgées non autonomes ou en perte d'autonomie dans un CHSLD, est-ce que ça vaut 18-20 $ de l'heure? Est-ce qu'on après, c'est ça, là.
Non, mais attendez, là. Mais il y a quelque chose qui est super important. Encore une fois, il faut vraiment analyser le tout, là. Tu sais, les Québécois, là, les fameux, là, entre guillemets, méchants riches dont on parle tout le temps, là. Ça, c'est 100 000 $ et plus, OK? La plus haute braquette, entre guillemets. Ça, c'est les personnes qui gagnent 100 000 $ et plus payent presque 40 % des impôts, mais ils sont 5 % dans la population. Mais attention, là. Le 100 000 $ et plus, vous savez qu'il y a une immense majorité de cette personne-là, c'est qui? C'est des policiers, des chauffeurs d'autobus, des infirmières, des médecins. Tout ça, c'est payé directement ou indirectement par le public, hein. Fait qu'à un moment donné, ici, là, quand je regarde j'ai les enfants, je regarde les éducatrices d'un CPE qui font un travail hallucinant. On ferait pas 15 minutes dans leur peau, OK? Et qui sont, très peu payés pour le travail qu'ils font. Puis quand je regarde quelqu'un d'autre qui peut faire grâce à des temps supplémentaires 115 000 $, j'ai beaucoup de payé par le public.
Je comprends, c'est tout à fait, c'est un bon point. Julien Desnoyers là-dessus.
Mais justement, sur la valeur du travail, là, tout d'un coup, les gens les plus précaires, les plus bas salariés sont devenus des anges gardiens, hein? Sont devenus des travailleurs, des travailleuses essentielles. Mm-hmm. Nous, ce qu'on dit, c'est à travail essentiel, salaire essentiel. Les compagnies, tout d'un coup, ont trouvé beaucoup d'argent pour donner des primes. Nous, ce qu'on dit, c'est que ces primes-là, elles doivent demeurer. Elles doivent être permanentes. Parce que quand la crise sanitaire va être terminée, ce travail-là ne sera pas moins essentiel qu'il était. Ce que la crise nous souligne en ce moment, c'est que c'est les travailleurs et les travailleuses qui font tourner le monde. Là.
Ouais.
Pas leur patron, tu sais. Puis si on laisse au privé, au libre marché, gérer les salaires, tout ça, on se ramasse devant des situations absolument horrifiantes, comme il se passe en ce moment, tu sais. Je suis pas ici pour pleurer sur le sort du pauvre monde, là. Mais le message que je veux passer, là, c'est que les gens, il faut qu'ils se lèvent debout, là, les bas, les personnes qui sont bas salariés, il faut qu'ils se lèvent debout pour réclamer ce qui leur est dû. Puis une augmentation du salaire minimum, ne serait-ce qu'à 15 $, là, qui est en dessous du salaire décent pour l'instant. Mais tu sais, c'est un des meilleurs moyens de retenir du personnel, d'augmenter la productivité au travail, de faire baisser les taux de suicide, ces éléments-là.
Julien, vous avez raison. Oui. Il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent aussi. Il y a la reconnaissance. Puis en même temps que...
Je ne paye pas mon loyer avec un chèque de reconnaissance.
Non, vous avez raison. C'est sûr. Mais il y a les deux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les deux. En même temps, la reconnaissance, ça part aussi par la reconnaissance d'une condition salariale minimal. 13,10 $, il y a Lise qui me dit sincèrement, moi je sais plus. Elle dit le salaire minimum pour les mois à venir est inférieur à rester chez soi, je crois. Elle dit est-ce que j'en ai perdu des bouts? Mais finalement
c'est une autre belle contradiction.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est une autre belle contradiction parce que tu sais, le gouvernement lui-même avoue que dans le fond, le salaire minimum est pas suffisant pour offrir une vie décente aux gens. Ça fait que quand ils offrent la prestation universelle d'urgence, ces choses comme ça, c'est substantiellement au-dessus.
Exact. Puis là, voilà. On a Sylvain. J'aimerais qu'on parle à Sylvain parce que Sylvain est un auditeur qui est aussi un employeur. Bonjour Sylvain.
Bonjour, ça va bien.
Ça va bien. Quelle est votre opinion par rapport à notre discussion là?
Écoute, je pense pas que c'est le temps d'augmenter les salaires minimum. Écoute, je pense qu'on a besoin de faire une petite face à la réalité des choses, là. Ce qu'il disait, votre invité, écoute, ceux qui font 100 000 $ et plus, qui ont des policiers, pompiers, etc., c'est correct. Mais ces gens-là, là, c'est qui les paye? Ces entreprises privées. On a besoin de faire comprendre la population, nos fonctionnaires, à tout le monde, que cet argent-là, apporte pas dans les armes. C'est de la nouvelle argent pour les payer. Et je pense que la réalité est que les gens, toute notre fonction publique est déconnectée là-dedans et que là, ils se disent à faire d'en haut. Mais quand on augmente les salaires minimums, moi, là, je vais vous dire, j'ai pas rien à cacher. Hein. J'ai 24 employés. Si on me dit, OK, 60 $, 60 cents de plus, je viens d'en couper un parce qu'à 24, ça me donne un salaire de 30 000 qu'il faut que je coupe.
Vos employés sont...
J'ai rien à cacher.
Ouais, sont au salaire minimum? Ouais.
Ben non, ils sont pas au salaire minimum.
Mais ça va faire augmenter les salaires de tout le monde, c'est ça que vous dites?
Oui, ça va augmenter. Mais j'en ai même pas un au salaire minimum, c'est ça qui est pire. J'en ai même pas un. Puis, On se donne, moi et ma conjointe, 60 000 $ par année. Tout le monde a l'air à penser que les entrepreneurs font des millions de dollars, ils sont riches, on est capable de tout payer. Mais venez mettre des millions en garantie pour la banque, pour le fun.
Ah non, c'est ça, sûr, le problème. C'est sûr, tout à fait. Hein? Merci. Merci beaucoup de votre intervention. On va aller à la pause. On revient avec mes invités et vos commentaires. Toutes nos lignes sont pleines là-dessus. Je suis contente que ça vous intéresse parce que je trouve que c'est un enjeu important. Le salaire qu'on donne aux plus bas salariés, ça en dit beaucoup. C'est une question de valeur, c'est une question d'équité aussi, c'est une question de choix de société. En même temps, on vient de l'apprendre cette semaine, on s'en va vers un déficit record au fédéral de plus de 250 milliards. Moi, c'est tellement énorme là que je me dis, mon Dieu, ça a juste pas de bon sens. Puis c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que tout le monde bénéficie des largesses des programmes. Mais en même temps, il faut quand même se dire, il y a 360 000 personnes au Québec qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est aussi une réalité. À tout de suite, tout le monde. Oui, oui, vous avez bien entendu, un déficit record de 252 milliards, c'est ce que aura coûté jusqu'à maintenant cette crise de COVID-19. C'est un manque à gagner du fédéral et c'est ce qu'on nous dit là, mais tu sais, qui nous dit que ça sera pas plus? Évidemment, pour certains secteurs de l'économie, puis je vous le disais, commerce de détail, ça va être excessivement difficile de se relever. L'industrie de la restauration, où il y a beaucoup de travailleurs au salaire minimum, et on a justement avec nous Francine Brûlé, qui est restauratrice et les propriétaires de plusieurs restaurants, dont les Enfants Terrés. Bonjour, Madame Brûlé.
Bonjour, Isabelle.
Pas facile, oui, facile en ce moment là pour les restaurateurs. On a entendu beaucoup de restaurateurs dire que, d'abord, il y en a qui ont fermé leurs portes, qui ont déjà annoncé que c'était fini pour eux. Il y en a d'autres qui disent, je sais pas comment je vais m'en sortir. Des tables à 2 mètres l'un de l'autre, ça va être un casse-tête incroyable pour vous. Là, on vous dit aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est plus 12,50 $, c'est 13,10 $. Comment vous voyez ça, cette augmentation de salaire minimum? On se demande, est-ce qu'on aurait pu la reporter? Vous en pensez quoi, vous, François?
Ben, écoutez, Isabelle, ça vient de tous les côtés. C'est certain que d'augmenter, comment je pourrais dire, un sentiment double, parce que oui, les gens méritent, c'est sûr, 13,10 $, hein, avec le coût de la vie, mais même à 12,50 $ que c'était, on avait de la difficulté à arriver. Les marges sont tellement, tellement minces en restauration qu'on n'y arrive pas. Alors c'est difficile et puis là ça va être encore plus difficile parce que si on doit opérer à moitié de 50% du restaurant, comment on va faire, comment on va, je ne sais pas, honnêtement c'est évident que c'est une situation qui fait qu'empirer. Tous les jours on dirait qu'on c'est pire qu'hier.
Ah ouais, comment vous voyez la reprise, vous, Francine Brûlé? Puis les Enfants Terribles, là, ça marche bien d'habitude. Vos restaurants fonctionnent bien. Est-ce que puis on suppose que vous seriez parmi ceux qui vont arriver à s'en sortir, mais vous dites pourtant c'est pire que la veille. Et donc vous êtes plutôt pessimiste, Francine, en ce moment?
Non, je suis une éternelle. Je suis toujours positive. Et puis je regarde toujours de l'avant. Et puis je me lève à chaque matin, puis je fais tout ce que je peux faire pour voir comment on va sortir de cette situation qui est pas une situation facile. C'est certain qu'on a du support des gouvernements qui nous aident, mais il y a beaucoup de support qui est en dette. Alors, il va falloir remettre. Il n'y a pas c'est pas de la magie, là.
Non, c'est
mais
sûr.
Comment je la revois, sincèrement, j'ai de la difficulté à imaginer parce que on n'a aucune idée quand on va réouvrir. Et quand on va... Puis là, présentement, on devrait être en train de nettoyer nos terrasses, mettre nos meubles de terrasse, même si c'est un peu frais. Là, on va se lever un matin, il va faire super beau. Et c'est le mois de mai, c'est le plus gros mois de l'année en restauration quand il y a des terrasses. Et les Enfants Terribles ont de magnifiques terrasses dans tout leur restaurant.
Le mois de mai, c'est votre plus gros mois, vous dites, en terrasse?
Oui, le plus gros mois de l'année. Parce que normalement, nos enfants sont encore à l'école. Alors, ils ne sont pas partis en vacances. Personne n'est parti en vacances. Mais ça fait des mois qu'on souffre du froid d'être à l'intérieur. au premier rayon de soleil, tout le monde se lance sur les terrasses et tout le monde est à Montréal. Mmh. Alors, c'est la folie furieuse au mois de mai. Depuis 12 ans qu'on a les enfants terribles, ça a toujours été comme ça. À moins qu'il fait pas beau, là. S'il fait pas beau, non, mais quand il fait beau, là, tout de suite, il y a des lignes à la porte. Le monde, ils veulent être dehors, ils veulent profiter du soleil. Mmh. Alors, ça, comment on va faire? Je sais pas. Si on a une table sur trois, honnêtement, je sais pas, j'ai commencé à faire des chiffres pour voir si on va être capable de le rentabiliser parce que il faut quand même notre personnel de cuisine, notre loyer, tout ça à payer. On sera pas capable. Je sais pas comment on va faire. On va servir les gens avec quoi? Un masque? Comment on va faire pour servir les gens avec un masque? Moi, j'ai pas envie d'aller au restaurant et de me faire servir avec un masque. Je pense à des visières pour au moins voir le sourire. On va tous avoir besoin d'amour, hein? Faut montrer le sourire. Je sais pas. C'est un peu difficile. Et c'est sûr qu'on a besoin d'un peu plus d'aide du gouvernement, malgré qu'ils font leur possible. Mais c'est comme le gouvernement, malheureusement, on a arrêté. Nous, on a beaucoup d'employés à pourboire. Le pourboire est rentré dans les salaires. Alors, dans plusieurs de nos restaurants, on n'est pas éligible à l'aide de 40 000 $ parce que à cause du pourboire.
Et là, le salarié au pourboire, bon là, maintenant, il y a une hausse de 40 sous. Je le disais tout à l'heure, pour le taux général augmente de 60 sous. Rapidement, est-ce que ça va être une pression indue, ça, en plus?
Mais c'est sûr. C'est sûr, c'est encore plus de frais parce que l'augmentation de salaire, on en a eu plusieurs là, dans les derniers 24 mois, là, ça, une après l'autre. Hein. Et nos ventes n'ont pas augmenté. Ça va juste être plus difficile. Ça va juste être plus difficile pour beaucoup moins de ventes. Alors, je ne sais pas. Honnêtement, on ne le sait pas. On fait ce qu'on fait présentement pour essayer d'attendre le futur. On fait des livraisons à la maison, on fait des paniers, on fait des magnifiques paniers pour la fête des mères pour livrer chez les mamans, parce que ça, c'est l'autre affaire. Les mamans vont toutes être seules. Tu sais, c'est quelque chose.
Ah oui. Francine Brûlé, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien. On aura l'occasion certainement de vous parler au cours des prochaines semaines parce qu'on en saura sans doute un peu plus sur l'industrie de la restauration. Francine Brûlé est propriétaire des restaurants Les Enfants Terribles. Alors, vous l'avez entendu, si vous voulez les encourager, vous pouvez commander. Nicolas Duvernois, Pure Vodka, Julien Desgnaux, porte-parole de la campagne 15+. Un petit mot rapide, Nicolas et Julien. Nicolas?
Ben, il faut pas oublier qu'il y a énormément d'employés du public qui sont sous-payés. Moi, je pense aux professeurs, aux infirmières, aux préposés, aux éducatrices de CPE. Donc, tout mettre le blâme sur les entreprises privées, des fois, je trouve qu'on a un peu le dos large. Je crois que c'est vraiment un travail collectif pour pouvoir atteindre notre objectif tous commun de bien vivre de notre passion et de notre travail.
Merci beaucoup, Nicolas Duvernois. Julien Desgnaux.
La discussion nous oriente sur le fait que les fermetures de PME actuellement, hein, ça n'a pas rapport avec les hausses de salaire. Là. Quand le salaire minimum est augmenté, les études qui démontrent, c'est qu'il y a une hausse de la consommation locale. Au lieu d'être en désaccord avec les hausses de salaire, il faudrait plutôt s'attaquer aux vrais prédateurs. Là. Ça, c'est les multinationales. Mm. Les PME, ils en arrachent et ils en bavent parce qu'il y a des grosses bannières.
Merci beaucoup. Je vais vous laisser. On va aux nouvelles tout de suite à l'instant. Merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve de l'autre côté. Restez là, tout le monde. On va parler des tests.